Bonjour, chers sœurs et frères. Salutations fraternelles à vous toutes et à vous tous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous dans un monde troublé, mes amis. Vous savez que la guerre, maintenant, fait rage entre l'Ukraine et la Russie. Ce sont des moments prophétiques que nous ne pouvons pas ignorer. Dieu nous donne beaucoup d'informations. Donc, on va faire une étude sur la prophétie, mes amis, avec un but très précis. J'aimerais que vous vous rapportiez au livre des Proverbes, s'il vous plaît, livre des Proverbes, dans le chapitre 29, des Proverbes, verset 18, chapitre 29, verset 18 du livre des Proverbes. Nous lisons ici, je vais alterner un petit peu entre Louis II et la version Osterwald, qui parfois est plus précise, mes chers sœurs et frères. D'ailleurs, cette écriture-là, j'aimerais la lire chez Osterwald, pour que vous sachiez, mais de toute façon, et prenez note, parce que c'est important de savoir pourquoi Dieu nous révèle la prophétie, il nous donne une vision du futur qu'il n'y a aucun peuple ailleurs qui ait la clarté de ce qui va arriver dans le futur, mes amis. Maintenant, un futur qui n'est pas lointain, qui s'approche de plus en plus. Et puis, reportez-vous encore, comme je vous l'ai dit, au chapitre 29, verset 18 du livre des Proverbes, s'il vous plaît. Je vais lire là de la version Osterwald. Lorsqu'il n'y a point de vision, et puis il y a d'autres versions qui disent des visions prophétiques. Lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. C'est-à-dire, c'est pourquoi dans l'Église des dieux, l'Église du Dieu vivant, avec la compréhension que Dieu nous donne du futur, nous insistons sur des sujets de prophétie, parce que, autrement, le peuple est sans frein, il n'y a pas de vision. Mais quand tu as une vision de ce qui s'approche, ça nous aide, mes amis, à avoir cette maîtrise de nous-mêmes que Dieu veut que nous apprenions. Un fruit de l'Esprit de Dieu, très important. Il dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Ils ne savent pas où est-ce qu'on va, donc ils perdent la vision et ils perdent le contrôle d'eux-mêmes. Donc, mais heureux est celui qui garde la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le même proverbe. Quand on a une vision claire de l'avenir, mes chers sœurs et frères, que Dieu nous donne avec ses buts spécialement, pas pour satisfaire la curiosité, mais pour nous avertir et pour que nous prenions garde, pour que nous soyons prêts. Lorsqu'il n'y a point de vision, j'ajouterai dans d'autres versions très dignes de confiance, dit le peuple est sans frein, mais heureux est celui qui garde la loi. C'est la voie étroite qui nous mène à la vie éternelle. Et la vision du futur, la vision prophétique, nous aide, mes chers sœurs et frères, à marcher sur cette voie étroite jusqu'à la fin. C'est quelque chose que Dieu nous donne pour que nous soyons l'esprit éveillé au sujet des circonstances que nous vivons. Donc, il y a d'autres écritures aussi que nous devons tenir compte aussi, si vous voulez reporter, s'il vous plaît, à la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, nous trouvons une autre écriture au sujet de la prophétie. Au chapitre 5 de la première épître aux Thessaloniciens, au verset 20, chapitre 5, verset 20 de la première épître aux Thessaloniciens, il dit « Ne méprisez point les prophéties ». Je viens de vous dire, elles sont très importantes. Et ici l'apôtre Paul nous rappelle que il nous donne cette exhortation, ne méprisez point les prophéties. Et puis voyons encore une autre écriture, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, reportez-vous à la deuxième épître de l'apôtre Pierre, deuxième épître de l'apôtre Pierre, Nous trouvons dans le premier chapitre, verset 19, deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, verset 19. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher. Écoutez bien, à laquelle vous faites bien de vous attacher comme à une lampe qui brillait. Et puis, d'ailleurs, ça doit être au présent ici. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis à l'imparfait ici. C'est une lampe qui brille dans un lieu sombre. C'est-à-dire, la prophétie, c'est une lumière que Dieu nous donne dans un monde ténébreux comme les nôtres. Les gens, ils ne savent pas ce qui va arriver après cette guerre-là qui a éclaté. Et quelle est la raison pour laquelle cette guerre a éclaté. Et quels seront les résultats. Nous le savons et nous allons les revoir au fur et à mesure que nous avançons. Et je sais que la plupart d'entre vous, ils savent bien qu'est-ce qui est en train de se passer, mais c'est bien de le revoir et puis de le vérifier dans les Écritures. Donc, il dit au chapitre 1, verset 19, deuxième, seconde épître de l'apôtre Pierre, nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien de vous attacher. Comme à une lampe qui brille, je le mets au présent, dans un lieu sombre. C'est un monde ténébreux. On ne sait pas qu'est-ce que le futur. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que le futur va leur apporter. Nous le savons. Et nous savons que notre libération s'approche aussi, mes amis. Jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin. Si vous trouvez le livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre, vous allez trouver que l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ. Donc, quand nous voyons les prophéties s'accomplir, nous voyons que avec cette lampe qui nous donne de la lumière dans un lieu obscur, nous avons cet espoir que ça, il s'approche quand le jour va resplendir au retour du Christ. Il va venir comme le soleil d'une nouvelle époque, d'une nouvelle ère, du monde, du royaume des dieux, jusqu'à ce que le jour resplendit et que l'étoile du matin, c'est le Christ lui-même, se lève dans vos cœurs. Nous serons un avec lui quand nous serons transformés dans un clin d'œil de matière en esprit. Et nous voilà que nous serons un avec le Christ, prêts à nous marier avec lui pour l'éternité. C'est merveilleux. Donc la prophétie nous aide à rester fidèles et à marcher avec un pas ferme dans un monde ténébreux, parce que nous avons cette lampe qui nous donne lumière. Vous allez dans un sentier, dans les montagnes, et vous avez une lampe de poche. Vous voyez ce qu'il y a à peu près qui est proche, mais au fur et à mesure qu'on avance, les détails du chemin se font très évidents. C'est ce que Dieu est en train de nous montrer maintenant, avec ce qui se passe sur la scène du monde. Donc, et puis encore, je crois qu'il y a encore une autre écriture que je voulais vous lire au sujet de l'importance de la prophétie. Mais ça en fait trois témoins déjà. Je vous ai lu l'épître aux Thessaloniciens, puis le Proverbe, chapitre 29, verset 18, et puis la seconde épître de Pierre. Donc, voilà la raison par laquelle nous parlons des prophéties aujourd'hui, mes amis. Donc, nous pouvons commencer parce que je dirais, mes chers sœurs et frères, ce que nous sommes en train de voir dans l'horizon du monde, c'est les acteurs de la dernière scène du drame de l'histoire humaine. Ils s'apprêtent pour sortir et pour entrer sur la scène du monde. Et voilà que c'est la dernière, avant le retour du Christ. Nous voyons les rois de l'Est qui se préparent. Et nous voyons ce qui va provoquer en Europe. Ça va accélérer l'Union européenne. Et le moment où la bête va se manifester, elle est faux prophète en faisant tomber du feu du ciel. Nous sommes beaucoup plus proches de ces événements. Et nous saurons à ce moment-là le retour du Christ est proche. et nous pouvons lever nos têtes en sachant que notre libération s'approche. Donc, chers sœurs et frères, continuons. Nous allons voir maintenant, reportez-vous, s'il vous plaît, au livre de Daniel. Nous allons voir quelque chose de très intéressant que peut-être la plupart de vous connaissez déjà. Vous les connaissez, mais peut-être il y en a d'autres, des frères et des sœurs qui sont arrivés récemment, qui n'ont pas cette information. Ça nous a été donné par l'Église au cours des décennies, il y a des décennies. Mais maintenant qu'on s'approche, il paraît qu'on en parle de moins en moins. Mais l'accomplissement est beaucoup plus proche que le jour, il y a quelques décennies, où on nous a appris la signification de ces prophéties. Si vous reportez au chapitre 4 du livre de Daniel, s'il vous plaît, chers sœurs et frères, nous voyons que Nebuchadnezzar lui-même, qui était l'empereur du plus grand empire jusqu'à ce moment-là, l'empire babylonien, il a eu un rêve. C'est le Christ, enfin l'Écriture nous dit, ceux qui s'exaltent eux-mêmes, ils vont être humiliés. Et lui, il s'est exalté jusqu'au point où Dieu a décidé de lui enseigner une leçon pour qu'il sache qui est celui qui vraiment contrôle le cours de l'histoire. C'est Dieu. Et il donne le pouvoir à qui il veut. Donc, Nebuchadnezzar a eu un rêve, et nous allons étudier, il y a un symbolisme très significatif pour nos jours dans ce rêve qui a une dualité. Il s'applique à Nebuchadnezzar lui-même, mais il s'applique aussi à l'empire de Babylone et comme il va ressurgir à la fin des temps, la grande Babylone. Il est appelé comme ça au chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, au chapitre 17. Donc, il n'y a pas eu une Babylone dans l'histoire humaine depuis la Babylone qui s'est effondrée dans l'année 539 avant Jésus-Christ. Nous allons voir les détails, mes chers sœurs et frères. Donc, voici que Nebuchadnezzar, il est devenu comme une bête sauvage pendant 7 ans, mes amis, lui-même. Dieu, sans doute, il a demandé aux anges qu'est-ce qu'on va faire avec Nebuchadnezzar pour qu'il apprenne sa leçon. Et nous allons voir un petit peu ici comment Dieu, il demande l'opinion. Il y a aussi un chapitre, je ne vais pas y aller maintenant, vous le trouvez dans le livre des rois, où il y a un prophète à l'époque de Ahab, le roi de Samarie, des 10 tribus du nord. Il a eu une vision, il voyait Dieu assis sur son trône, il demandait aux anges qui étaient d'un côté et de l'autre de son trône dans les cieux, il leur demandait, qu'est-ce qu'on va faire pour que Ahab se rende en Syrie et qu'il périsse à cause de ça? Donc, il recevait des idées de la part des anges, c'est comme les conseils des anciens, les 24 vieillards qui sont là devant les trônes de Dieu, c'est comme un conseil des anciens. Nous avons la même chose. Dieu, maintenant, il a un conseil des anciens ici-bas. Et c'est par son esprit qu'il nous dirige, pas par des votations, mais en nous donnant la lumière, par l'intermédiaire de ses serviteurs, et spécialement celui qui a l'autorité de prendre la décision finale, en ce moment, à cette époque, M. Weston. Et avant, c'était M. Meredith. C'est merveilleux de voir comment l'esprit dirige l'Église, pas par des votations, des systèmes humains qui dénotent un manque de foi, mes amis, que le Christ est la tête de cette Église. Donc, voilà, et Nebuchadnezzar, il a eu ce rêve. Lisons un petit peu, peut-être il y en a parmi vous qui n'ont pas lu cette histoire depuis longtemps. Ça nous fera du bien peut-être. Reportez-vous au chapitre 4, verset 1. Du livre de Daniel, s'il vous plaît, mes chers amis. C'est un personnage que j'aime très spécialement, ce Daniel. Et bien sûr, il était aimé des dieux. Vous le trouvez 3 fois dans le chapitre 10 que l'ange Gabriel lui dit à plusieurs reprises, « Tu es très aimé. » Et nous, on veut savoir que Dieu nous aime aussi, mes amis. Donc, lisons ici au chapitre 4, du livre de Daniel. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples aux nations, aux hommes de toutes langues. Donc, il nous, un roi qui était endurci comme il était, il a appris une leçon d'humilité, et maintenant, il s'adresse au monde entier, même à nous autres. Dieu a préservé sa lettre ici dans la langue araméenne pour que nous la lisions aujourd'hui. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Maintenant, il reconnaît qui est le chef. Il est clair à ses yeux maintenant que ses signes sont grands, que ses prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il y a des gens qui croient qu'il était complètement converti, mais nous allons voir que lui, il mentionne Belshazzar, qui est le nom qu'il a donné à Daniel. Il a dit, c'est le nom de mon Dieu. Donc, il croyait encore à ses dieux, mais il a appris à respecter les dieux des dieux, l'éternel, notre Dieu, à nous. Moi, Nebuchadnezzar, verset 4, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Je vis un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnais qu'on fût venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar, d'après le nom de mon Dieu, je vous l'avais dit, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Vous savez que le nom Elohim, en hébreu, est au pluriel. Et ça représentait pour l'Ancien Testament, sans qu'il le sache, qu'il y avait Dieu et la parole, que maintenant sont le Père et Jésus-Christ. Ce sont deux, mais ils sont un. C'est quelque chose que les Juifs n'ont jamais compris. Et maintenant, même aujourd'hui, ceux qui se disent messianiques, beaucoup d'entre eux, ils ne peuvent pas accepter que le Christ est Dieu lui-même. Cependant, pourtant, quand Moïse a demandé à Dieu, avant qu'il aille en Égypte, si les enfants d'Israël me posent la question, quel est le nom du Dieu qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je veux leur dire? Le Christ lui a dit, dis-leur, je suis, ça veut dire Yahvé, m'a envoyé à vous. Et c'était la parole de Dieu qui parlait là. Et le Christ lui-même, au chapitre 8 de l'évangile des Jean, j'espère que vous savez ces choses, il a dit aux pharisiens, Abraham s'est réjoui de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc les pharisiens lui posent la question, tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham? Le Christ leur répond, avant qu'Abraham fût, je suis. La même phrase qu'il a donnée à Moïse pour s'identifier. Et maintenant, c'est le Christ qui parle. Il dit qu'il est l'Éternel, qu'il est Yahvé. Donc, il y a les deux qui portent ce nom. Et il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Voilà. Et nous sommes appelés nous-mêmes à faire partie de cette unité. C'est merveilleux. C'est un peu au-delà de notre compréhension totale. C'est tellement puissant et magnifique l'appel que Dieu nous a fait, mes amis. Mais continuons. Ici au chapitre 4 de Daniel. Donc, il a raconté le rêve. Voici le rêve. Belshazzar, chef des magiciens, je lis verset 9 du chapitre 4 de Daniel. Qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints. C'est Elohim. Le Père et le Fils, ils ont le même esprit, bien sûr. Et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais, voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grandeur, d'une grande hauteur. Cet arbre est devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on les voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches. Et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit, souvenez-vous que le Christ a comparé le royaume des dieux avec un arbre aussi. Donc, il s'agit d'un arbre maintenant de l'Empire babylonien. Et vous allez voir que ce rêve a une double valeur. Il parle de Nebuchadnezzar lui-même, mais il parle aussi de l'Empire babylonien. C'est intéressant, je vous dis à l'avance pour que vous compreniez. Dans la Bible, un empire est l'empereur, ou un royaume et le roi peuvent apparaître sous le même mot. Ils peuvent s'identifier. On peut échanger de la façon suivante. Le Christ, par exemple, au chapitre 17 de Luc, quand on lui a demandé si le royaume des dieux viendrait avec une grande manifestation, le Christ a dit non, ça ne sera pas comme ça. Le royaume des dieux est parmi vous. Il parlait de lui-même. Parce qu'un royaume et un roi, dans la Bible, on peut les échanger l'un à l'autre. Le roi représente le royaume et le royaume représente le roi. Et je vais vous le démontrer tout de suite pour que vous étiez au courant de ces choses-là ou que vous les vous rappeliez. Par exemple, au chapitre 7 de Daniel, quelques pages en avant là, verset 17, vous avez la preuve. Chapitre 7, verset 17. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois. Grands animaux, c'est traduit chez Osterwald, grande bête. C'est une façon un peu plus exacte de traduire le concept. Ces quatre grands animaux, comme je vous dis, quatre bêtes, il parle des quatre empires. C'est intéressant, il dit, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Et puis, si vous regardez un peu plus bas, au verset 23, vous lisez, il me parla ainsi, le quatrième animal, c'est-à-dire la quatrième bête, c'est un quatrième royaume. Voilà la preuve. Dans la prophétie biblique, un roi et un royaume, on peut le changer. Ça dépend du contexte. Et nous avons le contexte. Nous pouvons le comprendre. Donc, je continue là pour que vous sachiez ces choses que Dieu nous permet de comprendre. Et c'est pourquoi le Christ a dit, le royaume des dieux est parmi vous. Il n'était pas dans les cœurs des pharisiens, comme quelqu'un pense qu'il est dans notre cœur. Non, il n'est pas dans notre cœur. Le royaume des dieux va être établi sur la terre. Avec ceux qui se sont transformés, peu à peu, dans l'image du Maître, pour régir le monde. Voilà notre appel, mes amis. Donc, le Christ était parmi eux. Les pharisiens étaient des hypocrites. Peut-être pas tous. Il y en a quelques-uns qui ne l'étaient pas. Nicodème ne l'était pas. Il était pharisien. Mais le Christ, le royaume des dieux, n'était pas dans leur cœur. C'était le Christ qui était parmi eux. Ça, c'est une traduction plus exacte. Il y a des versions qui disent « il est dedans vous ». C'est pas ça que le Christ a voulu dire. Si vous étudiez bien la préposition, il a dit « parmi vous ». Il parlait de lui-même. Il représentait le royaume des dieux. Et nous allons voir ici qu'il y a les deux choses. On parle d'un arbre, et puis on va parler, vous allez voir comment ça va changer entre l'arbre et Nebuchadnezzar lui-même. Donc, on continue au chapitre 4 du livre de Daniel. Verset 20. Alors, verset 19. Oh, excusez-moi. Je vais continuer à lire pour que vous sachiez quel est le contexte. Donc, il a parlé au verset 12, chapitre 4, verset 12. Il a parlé de cet arbre. Et puis, au verset 13 du chapitre 4, dit, dans les visions de mon esprit que j'avais sur ma couche, je regardais et voici un de ceux qui veillent et qui sont saints descendus des cieux. Ceux qui veillent, en araméen, ça veut dire des anges. Donc, ce chapitre a été écrit dans une autre langue qui se ressemble beaucoup à l'hébreu, et il parle des anges comme de ceux qui veillent. Donc, il dit qu'un de ceux qui veillent, c'est-à-dire un ange, qui sont saints, descendit des cieux. Verset 14, il cria avec force et parla ainsi, « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits. » Que le bête fuit de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Me laissez en terre le tronc. Écoutez bien ça, mes amis, on va revenir là-dedans. Me laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Et liez-le avec des chaînes de fer et des reins. Les racines de cet arbre, une fois coupées, allaient être liées. Allait être lié avec des chaînes de fer et des reins. Très important. Gardez ça dans vos esprits parce qu'on va y revenir dans un moment. Et donc, ici, ça change un peu, ça change vers Nebuchadnezzar. Il a parlé d'abord de l'Empire, qui était l'arbre. Maintenant, la personne, au milieu du verset 15, dit « Parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rose et du ciel, et qu'il ait comme les, et qu'il ait comme les bêtes l'herbe de la terre pour partage. » Ça parle maintenant de Nebuchadnezzar qui va être tourné dans une bête sauvage. Il a perdu sa raison. C'est le châtiment que Dieu lui a envoyé à cause de son orgueil. Il a été abaissé au niveau des bêtes. Donc, verset 16, « Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 ans passeront sur lui. » 7 ans, ça veut dire 7 ans, 7 années, ou 7 ans. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Dieu a demandé aux anges, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, ils ont proposé une idée, Dieu l'a accepté, il l'a autorisé. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut, voilà, quel est le but de la décision? Que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes, qu'il le donne à qui lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes, le plus bas. Voilà, Dieu règne suprême, chers sœurs et frères. Voilà les songes que j'ai eus, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, Nebuchadnezzar maintenant demande à Daniel, donne en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Nous l'avons aussi, d'ailleurs. On peut demander à Dieu de nous donner la sagesse pour son service, et de servir son peuple, pas pour nous vanter, parce que Dieu résiste les orgueilleux, et donne sa grâce aux humbles. Verset 19. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lesquels s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi. Je vous ai déjà expliqué ça. Le royaume représente le roi, et le roi représente le royaume, qui est devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent, qui sont saints, c'est-à-dire un ange, descendre des cieux et dire, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rose et du ciel. » Maintenant, il part de l'herbe puis revient à Nebuchadnezzar. et que son partage soit avec les bêtes. Il va tourner avec une bête. Il y a l'arbre qui est l'empire, et puis il y a Nebuchadnezzar qui est l'empereur. Soit avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans, donc c'est 7 ans, littéral, 7 années, se sont accomplis exactement au bout des 7 ans. Nebuchadnezzar a repris son esprit, Dieu lui a rendu son esprit, mais c'était, ça s'appliquait à lui personnellement. Mais son empire allait être lié, les racines avaient des chaînes, des reins de fer pendant 7 ans prophétiques. 7 ans prophétiques, je vous le montrerai dans un moment, ça équivaut à chaque jour de ces 7 années, ça représente une année. Si vous multipliez 7 ans, 7 par, laissez-moi voir, si vous multipliez 360, ce sont les jours d'après le calendrier hébreu, 360 jours, vous les multipliez par 7, vous avez un chiffre qui apparaît, c'est 2520. Ça représente 2520 ans. Pour Nebuchadnezzar, comme personne, ça représentait littéralement 7 années. Mais pour l'Empire, il allait disparaître après la mort de Nebuchadnezzar, et il n'y aurait plus de Babylone jusqu'à la fin des temps. Il fallait que s'écoule 2520 ans. Je vous l'ai démontré, mes amis, que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi et le décret du Très-Haut. C'est Dieu qui l'a, c'est les anges qui ont proposé, mais c'est l'Éternel qui a donné le décret. C'est comme ça que le Conseil des Anciens fonctionne sur terre dans l'Église du Dieu vivant. Et le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur Monseigneur le Roi. Donc, on te cherchera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. Donc, il lui dit l'explication et puis la chose est arrivée et Nebuchadnezzar a perdu sa raison pendant 7 ans. Il était comme une bête. Ses cheveux ont grandi et puis il se promenait avec les bêtes. Il mangeait de l'herbe. Il était changé en une bête sauvage. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est que au bout des 7 ans, comme dit ici au début du chapitre 4, l'esprit est revenu sur Nebuchadnezzar, il a appris sa leçon. Mais ce qui va arriver, c'est que après la chute de Babylone, Babylone va revenir sur la scène du monde. Mais ça sera au bout des 7 ans prophétiques, qui équivaut à que chaque jour de ce 7 ans, c'est une année. Et je vais vous démontrer dans la Bible comment on peut faire cette déduction. J'espère que vous me suivez là. Je vais vous dire la première, plusieurs preuves pour que vous les ayez en vos esprits. Par exemple, au chapitre 34 du livre de Ésaïe, nous allons voir. Chapitre 34 du livre d'Ésaïe, vous trouverez que au verset 8, Dieu déclare en prophétie la valeur d'un jour. Voyons-le démontrer par la Bible. La Bible s'interprète d'elle-même. Donc, rendez-vous, reportez-vous, s'il vous plaît, au chapitre 34 du livre d'Ésaïe. Et nous allons voir comment, et verset 8 du chapitre 34, qu'est-ce qu'on lit du livre d'Ésaïe, chapitre 34, verset 8. « Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles. » Le jour de l'Éternel dure une année. Les 7 trompettes vont sonner pendant une durée d'une année. C'est un jour prophétique. Donc, ici, c'est un jour de vengeance pour l'Éternel. C'est qu'un Dieu, il va venger tous les sangs innocents qui ont été versés sur terre, de ceux qui obéissent ses commandements, y inclut le sabbat. Une année de représailles pour la cause des Sions. Donc, maintenant, continuons, et vous allez voir que ça se répète au chapitre 61 du livre d'Ésaïe. Au chapitre 61, vous trouvez une écriture que le Christ a lue quand il s'est rendu à la synagogue à Nazareth, où il avait grandi. Au chapitre 61, commençons à lire à partir du verset 1 du livre d'Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. » C'est intéressant que le Christ, quand il est arrivé au verset 2, quoiqu'il n'y avait pas de verset, mais quand il a lu, il était à la synagogue de Nazareth, vous pouvez le vérifier, au chapitre 4 de Luc, je crois que c'est le chapitre 13 de Matthieu, vous pouvez le trouver, on ne va pas y aller maintenant, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas lu, parce que l'accomplissement de ce qui continue, de ce qui vient après, sera à la fin des temps. Mais il parle d'une année, et après, il identifie, et un jour des vengeances de notre Dieu. Comme c'était au chapitre 38, verset 8. L'année des vengeances, c'est le jour de l'Éternel. Le jour où les sept trompettes vont sonner. Donc, voilà la valeur prophétique. Et puis, un peu plus loin, il le répète encore, mes amis, au chapitre 63, verset 4. Chapitre 63 d'Ésaïe aussi. Vous voyez encore représenté au verset 4. Car, 63 verset 4, car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année, voilà, un jour de vengeance, il l'identifie avec quoi? Avec une année. L'année de mes rachetés est venue. L'année où l'on sera transformé dans des êtres spirituels. Donc vous voyez déjà trois preuves de la valeur. Puis vous vous rendez dans le chapitre 4 d'Ézéchiel. Ça c'est très connu. Chapitre 4 du livre d'Ézéchiel. Dieu, il donne aussi la valeur d'une année. Chapitre 4, verset 4. Puis couche sur ton côté gauche. Ézéchiel 4, 4. Puis couche sur ton côté gauche. Mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité. 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Vous voulez encore de preuves? Je vous en donne encore une. Chapitre 14 du livre des Nombres, quand Dieu a décidé de laisser les enfants d'Israël de pèleriner dans le désert à cause de leur manque de foi, ils l'ont irrité 10 fois. Il est lent à la colère, l'Éternel. Mais finalement, au chapitre 14 du livre des Nombres, voyez encore une preuve, mes amis. Chapitre 14, gardez ces choses dans vos esprits, c'est important, ce sont des clés pour comprendre la prophétie. Donc, au chapitre verset 34, chapitre 14, verset 34 du livre des Nombres. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années. Une année pour chaque jour. Et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Voilà. Je vous donne assez de preuves de comment comprendre la prophétie. Donc, qu'est-ce que c'est cette année? Les 7 années de la chute de Babylone, qu'est-ce qu'elles représentent? Si nous donnons, si vous êtes des bons mathématiciens, multipliez 7 par 360 et vous aurez le résultat 2520. Donc, nous allons voir une confirmation de cela dans le chapitre suivant du livre de Daniel, mes amis. Le chapitre suivant du livre de Daniel, reportez-vous au chapitre 5 de Daniel et vous allez voir, mes amis, ce qui s'est passé. J'essaie de raccourcir un peu, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Dans la Bible, tout est enchaîné, mes amis, tout est... Et justement, C'est quelque chose de merveilleux de voir toutes les références que la Bible a pour se démontrer elle-même, pour qu'on puisse la comprendre. Donc, voyons maintenant le chapitre 5 de Daniel. Tout de suite après le chapitre 4, où nous avons vu que l'arbre dont les racines allaient être liées avec des chaînes de fer et d'airain pour 7 ans. Ça, c'est une valeur prophétique. Donc, il y a une dualité dans la prophétie biblique. 7 ans littéraux se sont appliqués à Nebuchadnezzar lui-même, mais à son empire, 7 ans prophétiques qui représentent 2520 ans. Ça veut dire qu'une fois après la chute de Babylone, il ne serait pas reconstruit comme un empire qu'après 2520 ans. Gardez ça dans vos esprits, s'il vous plaît. Et puis, il serait les racines liées avec du fer et de l'airain, pour qu'il ne puisse pas grandir. Donc, il était bloqué, pour ainsi dire, avec ses chaînes. Donc, regardons ici le chapitre 5. Vous connaissez cette écriture très connue de l'écriture dans le mur, n'est-ce pas? C'est au chapitre 5. Je ne vais pas aller dans tous les détails, mais je me rends pour mieux comprendre au chapitre, à la version Osterwald. Parce que là, c'est plus précis, mes amis. Disons qu'il donne le nom. Vous savez que le roi Belshazzar, qui était le petit-fils de Nebuchadnezzar, il a fait un grand banquet avec ses femmes, ses concubines, avec tous ses administrateurs. Il célébrait le roi Cyrus. Il siégeait Babylone. Il se moquait parce qu'il savait que le muraille de Babylone n'était pas... C'était impossible de grimper ces murailles. Elle était tellement haute, n'est-ce pas? Donc il se moquait et il célébrait, n'est-ce pas, la grandeur et le pouvoir de Babylone. Mais il ne savait pas que Dieu avait promis à Cyrus qu'il allait sécher des rivières. Et les noms rivières au pluriel, ça veut dire un grand fleuve au singulier. C'est le fleuve Euphrate qui coulait sous les murailles de Babylone, et qui entrait dans la ville et qui sortait de l'autre côté. Donc, pour faire l'histoire courte, le roi Cyrus, et Dieu l'avait annoncé à l'avance, dans le chapitre, je crois que c'est 40 d'Ésaïe, je ne veux pas y aller maintenant, qu'il allait sécher des rivières devant lui. Il lui a ouvri les portes des villes qui n'étaient pas possible de faire l'assaut, n'est-ce pas, avec des troupes. Donc, Cyrus, il a dévié le cours des eaux avec des canaux qu'il a construits à quelques kilomètres de Babylone. Le niveau des eaux a baissé et ses troupes, pendant la nuit, pendant que Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, célébrait, il a ordonné de lui apporter les vases d'or et d'argent que son grand-père avait pris du temple de Jérusalem. Ils ont bu sur ces vases, ils ont invoqué et adoré des idoles de pierre et d'argent et de l'or. Donc c'était une profanation, vraiment, que même Nebuchadnezzar n'avait pas fait. Donc, à ce moment-là, une écriture sur le mur. Et le roi Belshazzar était tellement épouvanté, mes amis. Donc, il dit, quand il a vu cette écriture, je vais vous lire ici, sur la version Osterwald, qu'est-ce qui a été écrit? Ici, on a donné une traduction dans la version Louis II. On dit, je vais voir dans quel verset se trouve, verset 25. Ici, chez Louis II, ils ont simplement donné la signification, mais en omettant le nom. Voici l'écriture, chapitre 5, verset 25, chez Louis II. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser, diviser. Mais il ne donne pas le mot araméen qui était très proche de l'hébreu. Ici, chez Osterwald, au verset 25, qu'est-ce que la main a écrit sur le mur? Voici l'écriture qui a été tracée. Chapitre 5, verset 25, chez Osterwald. Il dit, Mene, Tekel ou Parsim. Ce mot, on donnait la clé à Daniel pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, Mene, Mene, Tekel ou Parsim. Donc, Daniel, le seul qui a pu interpréter l'écriture devant le roi, lui dit, et voici l'interprétation de ces paroles. Mene, Dieu a compté le règne. Il a mis fin. Donc, Mene, ça veut dire compter. Mais c'est aussi une mesure de poids qui équivaut à 1000 guéras. La guéra d'après le livre de l'Exode, chapitre 30, verset 13, vous voulez le noter, vous le vérifiez, je ne veux pas y aller maintenant, était la plus petite mesure, la plus petite de poids chez les Hébreux. C'était les guéras. Donc, il fallait donc compter combien de guéras il y a dans un méné. Il fallait compter. Donc, méné, 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 c'est une mine qui avait 1000 guéras. Ça apparaît deux fois. Donc, méné, méné, ça veut dire 2000 guéras. Après, il dit, tekel, c'est le mot pour la moitié. Tekel, c'est un cycle. C'était la moitié d'un méné. Ça veut dire 500. Donc, vous avez 2000. Oh, excusez-moi. C'est le numéro 20. Tekel, je crois, c'est le numéro 20. Je veux vérifier ça pour vous, mes amis. De toute façon, l'important, c'est de savoir que le nombre des guéras qui était la mesure de poids la plus petite qu'il fallait compter, c'est Tekel, je crois que c'est 20 guéras, et ou Parsim, c'était la moitié. Dans le méné, ça veut dire 500. Ça nous donne le même résultat des 7 années qui étaient prononcées sur l'arbre qui avait été coupé et dont les racines seraient enchaînées avec du fer, liées avec du fer et de l'airain. Nous avons le même chiffre. Au chapitre 4, il s'appelait pour 7 années, littéral pour Nebuchadnezzar, mais l'arbre qui était coupé, les 7 années représentent chaque jour une année, comme nous l'avons démontré. Ça veut dire 2520 années où l'arbre serait coupé, il ne pourrait pas croître parce que les racines étaient enchaînées avec du fer et de l'airain. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir dans un moment. Donc, l'addition de Mene Mene, Tekel ou Parsim, c'est 2520. Exactement la même addition des 7 jours, 7 années prophétiques du chapitre précédent. Nous avons le même chiffre. Le soir où Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, quand il célébrait avec les vases d'or et d'argent que Nebuchadnezzar, son grand-père, avait pris du temple à Jérusalem, ce soir même, Babylone, c'était la chute de Babylone, c'était le mois de septembre, à peu près. On a, dans la littérature que nous avons de l'Église, M. Ogwin, qui a écrit cette brochure, il dit que c'était la nuit des trompettes de la nouvelle lune. Bon, on n'est pas sûr. Il y a des indications peut-être un peu plus précises, mais l'important c'est de savoir que c'était vers l'automne, où Babylone est tombée dans les mains des Perses et des Mèdes. Des Perses et des Mèdes. Souvenez-vous bien de ces deux pouvoirs. Cyrus, dont le père était Perse, la mère était Mède. Il a réuni les deux royaumes. Et Dieu, donc, il a donné le royaume de Babylone dans les mains des Perses et des Mèdes. Et c'est devenu l'empire Médo-Perse. Donc, c'est arrivé l'année 539. C'est une date qui est reconnue pratiquement par tous les historiens. Si vous prenez ce chiffre, 539, et vous faites le calcul, combien d'années, 2520 ans, avant que Babylone ne commence à paraître sur la scène du monde de nouveau, où est-ce que ça vous mène? Souvenez-vous ce que je vous dis, mes amis. 2520, c'était le nombre où l'arbre serait coupé et les racines enchaînées. Mais à partir de la chute de Babylone, dans l'automne de l'année 539, si vous faites le calcul, nous nous retrouverons dans l'année 1982 de notre ère. Ça veut dire il y a 40 ans, 1982. J'espère que vous me suivez, mes chers sœurs et frères. Ça a été expliqué clairement par l'Église des dieux. J'espère que vous l'avez clair dans vos esprits. C'est étonnant. Donc, moi j'ai eu l'occasion, j'ai eu la bénédiction d'être à Pasadena pendant l'année 1982. C'est l'année où je me suis diplômé du collège ambassadeur. J'ai travaillé au département espagnol. Donc on avait un bureau, qui était le bureau qui analysait toutes les nouvelles du monde pour savoir quelle prophétie était en train de s'accomplir. Et moi j'étais la liaison entre le département espagnol, et puis il y avait un corridor au milieu, et juste quelques pas en face, c'était le département des rédactions, de la revue, des publications en anglais. Donc j'étais en contact continuel avec eux. Et en 1982, on savait que les 2520 ans de la chute de Babylone s'accomplissaient cette année-là. Donc, on regardait l'horizon. Il y avait un bureau qui s'occupait simplement de l'analyse des nouvelles à l'échelle mondiale, n'est-ce pas? Donc, on voulait trouver quelque chose, quelle référence pour voir qu'est-ce qui s'est passé, puisque cette prophétie que nous savons qui devait s'accomplir devait nous donner un signe quelconque. Bon, j'étais là, et quelqu'un a écrit un article pour la pure vérité, qui s'appelait, n'est-ce pas, « Cette année-ci s'accomplissent les 2520 ans de la chute de Babylone, et il peut y avoir quelque chose dans l'horizon qui va nous démontrer qu'est-ce qu'il va se passer, c'est-à-dire que Babylone revient sur la scène du monde. » Bon, on regardait, puis M. Armstrong, à l'époque, j'étais là, M. Armstrong était là au campus. Il s'est rendu compte que quelqu'un avait écrit un article là-dessus, c'est-à-dire l'apparition peut-être de Babylone ou de quelques signes. Il s'est fâché parce qu'il dit il faut pas fixer des dates, parce qu'on s'est déjà trompé plusieurs fois. Donc on lui expliquait, M. Armstrong, on n'est pas en train de dire que Babylone va apparaître d'un moment à l'autre sur la scène du monde. En étudiant la prophétie, ce qu'il paraît, c'est que les racines qui ont été liées avec des chaînes, peut-être vont se détacher et l'arbre va commencer à croître. Donc, ça ne sera pas immédiat, mais il doit y avoir un signe que ce moment est venu. Donc, on regardait, on analysait l'horizon, et vous allez deviner qu'est-ce qui s'est passé, mes amis. Je vais vous le lire. Dans l'année 1982, le 9 novembre, c'était déjà en l'automne de cette année-là, le pape Jean-Paul II, il s'est rendu en Espagne. Il a fait un pèlerinage tout autour de l'Espagne. Il a conclu son pèlerinage dans la ville de Santiago de Compostelle, qui se trouve dans la région de Galicienne. C'est un nom qui ressemble à gaélique, n'est-ce pas? Où les Celtes ont vécu, peut-être il y en a encore. Et de là, il y en a beaucoup qui ont émigré vers l'Irlande, vers l'Écosse. J'ai même visité les endroits où ils avaient construit, n'est-ce pas, des villages pour des provisions pour les bateaux qui faisaient le voyage entre Israël et les îles britanniques, mes chères sœurs et frères. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Santiago de Compostelle est devenu très connu dans l'histoire de l'Espagne et de l'Europe, parce qu'on dit que Santiago, c'est-à-dire Saint-Jacques, le frère de l'apôtre Jean, le disciple bien-aimé de Jésus-Christ, est le premier qui est mort. Donc, ce qu'on croit, c'est que lui, Jacques, l'apôtre Jacques, le frère de Jean, était le premier martyr. Lui, il était le premier des 12 apôtres à être martyrisé, n'est-ce pas? Donc, on dit que lui, Il s'est rendu en Espagne pour prêcher dans cette région où il y avait beaucoup de Celtes qui s'étaient installés là. Il y en a peut-être qui sont restés, d'autres, comme je vous ai dit, se sont rendus dans les îles britanniques de l'Écosse et l'Irlande. Donc, et ce qui est arrivé, et puis ces jours, vous connaissez, vous êtes des Européens, beaucoup d'entre vous, que le Camino de Santiago est très connu. Il y a beaucoup de gens qui font les pèlerinages des différentes parties de l'Europe. Il y avait les rois de l'Europe et les gens les plus humbles. Et puis il y a les Slaves, il y avait les Latins, il y avait les Celtes qui faisaient ce pèlerinage vers le tombeau de Jacques. Parce que d'après l'histoire ou d'après la légende, on dit que l'apôtre Jacques s'est rendu à Jérusalem pour la Pâque. Et d'après le livre des Actes au chapitre 12, on sait qu'il a été assassiné par le roi Hérode dans l'année 44 après Jésus-Christ. Donc la croyance c'est que les disciples de l'apôtre, ils ont pris les restes, son corps, n'est-ce pas, mort, ils l'ont transporté de nouveau en Galice, en Espagne, et puis l'ont enseveli là où se trouve maintenant la ville de Santiago, en son honneur. Santiago, c'est Saint-Jacques en espagnol. Ils ont enseveli son corps, ses restes, dans cette ville-là. Et puis, c'est devenu un lieu de pèlerinage, surtout à partir du Moyen-Âge. Et vous comprenez maintenant pourquoi Dieu n'a pas voulu que personne ne sache où Moïse a été enseveli. Parce qu'il leur arrivait la même chose. Ça aurait été converti dans un lieu d'idolâtrie, n'est-ce pas? Mais de toute façon, c'est un endroit très populaire pour le monde chrétien, surtout catholique. Et puis Santiago était devenu, depuis le Moyen-Âge, un lieu de pèlerinage aussi populaire qu'un pèlerinage à Rome ou à Jérusalem. Donc le pape, il a fini son voyage en Europe, il a prononcé un discours devant les rois et la reine de l'Espagne et devant des dignitaires, des hauts dignitaires de toute l'Europe qui étaient présents pour ce moment-là, qui était la culmination de son voyage. Et voici les paroles du pape Jean-Paul II à Santiago. Il les a prononcées le 9 novembre 1982. Comme je vous dis, on observait l'horizon pour savoir s'il y aurait un signe de l'accomplissement de cette prophétie qui était écrite là dans le chapitre 4, le chapitre 5 de Daniel, où 2520 années après la chute de Babylone, il y aurait un signe que Babylone reviendrait sur la scène du monde. Et voici les paroles de Jean-Paul. Il a donné tout un discours, vous pouvez le trouver d'ailleurs si vous le cherchez sur l'Internet, discours de Jean-Paul II à Santiago de Compostelle, le 9 novembre 1982, vous allez trouver ça. Il a fait une introduction en décrivant comment c'était un lieu de pèlerinage qui représentait quand même une façon d'unité spirituelle de l'Europe. Et c'est pourquoi il a choisi ce coin-là. Et il dit, « C'est pourquoi moi, Jean-Paul, fils de la nation polonaise, qui s'est toujours considérée comme européenne par ses origines, ses traditions, sa culture et ses relations vitales. Slave parmi les Latins et Latin parmi les Slaves. » Et puis il dit, « Moi, évêque de Rome et pasteur de l'Église universelle, depuis Saint-Jacques de Compostelle, je lance vers toi, vieille Europe, un cri plein d'amour. Retrouve-toi toi-même, sois toi-même, découvre tes origines, avive tes racines. » Voilà, c'est ce qu'on s'attendait. Il dit « ravive » ou « avive tes racines » de la part du pape, mes chers amis, que nous savons qu'à la fin des temps, quelqu'un qui est dans ce rôle-là va accomplir un rôle incroyable dans la prophétie des temps de la fin. Donc c'est lui qui a prononcé ça. Il dit « avive tes racines ». Qu'est-ce que ça voulait dire? Donc l'a compris, c'était un signe que les racines qui enchaînait l'arbre coupé et qui empêchait la croissance de cet arbre allait être enlevé à partir de cette année-là, comme ça on s'attendait, dont les racines étaient d'airain et de fer. Pourquoi ces deux métals? Quand vous étudiez la statue de Nebuchadnezzar au chapitre 2, les rêves qu'il a eus, au chapitre 2, je crois que c'est au chapitre 2 de Daniel, vous voyez que la Grèce, l'empire gréco-macédonien, est représenté par les ventres et les cuisses en airain. Vous savez que la démocratie est un produit de la culture grecque. Et puis, les empires, l'empire qui a continué après, c'était Rome, c'était les jambes et les pieds en fer. Et vous savez que le système républicain est né de Rome. Donc, ces deux systèmes politiques ont empêché, comme des chaînes autour des racines, que Babylone revienne sur la scène du monde. Nous allons voir un peu plus là-dessus. C'est assez étonnant et très significatif. Pour confirmer l'accomplissement de cette prophétie, chers amis, où on a prononcé ce discours, le pape, qui aura un rôle, quelqu'un dans cette position, un rôle crucial à la fin des temps, le faux prophète. 7 ans après, exactement dans la même date, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin a été démoli. Vous savez que ce mur empêchait l'unification de l'Allemagne. Vous savez que l'Empire romain est connu aussi comme romain germanique, pour les historiens. Exactement 7 années après que le pape a prononcé ce discours, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin est démoli. Et peu après, les deux Allemagnes ont été unifiées. Ça voulait dire que l'arbre avait commencé à croître et que les chaînes avaient été enlevées et que personne ne pourrait empêcher que Babylone continue à croître, à être rétabli comme un empire, un arbre énorme. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que pendant les deux guerres mondiales, la première guerre mondiale, il y a les Kaisers. Si les démocraties occidentales et les systèmes démocratiques de l'Amérique, de l'Angleterre, de la France, qui s'appelaient d'ailleurs, à la fin de la première guerre, c'était la Troisième République en France. C'est eux, les reins et le fer, les systèmes républicains et les systèmes démocratiques des États-Unis, de l'Angleterre et de la France, ceux qui ont empêché que l'Allemagne gagne la guerre et que devienne la première puissance du monde, un empire à l'échelle mondiale, sous le Kaiser. Ce n'était pas encore le temps pour que les racines soient enlevées, c'est-à-dire les chaînes qui étaient attachées aux racines. Deuxième guerre mondiale. Quelles puissances ont empêché que Hitler gagne la guerre? C'est exactement les mêmes. C'est la France, c'est l'Angleterre, les États-Unis, des systèmes républicains et démocratiques. Les chaînes sorties de fer qui représentaient les systèmes démocratiques de Rome, le système républicain, et puis le système démocratique de l'Empire gréco-macédonien. Et c'est ces systèmes-là, c'est les alliés qui avaient ce système de gouvernement qui ont empêché Hitler de gagner la guerre et de commencer son troisième Reich à l'échelle mondiale. Donc vous voyez, c'est étonnant de voir le symbolisme de ces prophéties. Donc, à partir de 1982, l'arbre a commencé à croître. Et puis, 7 ans après, Le mur de Berlin est démoli et l'arbre continue à croître. C'est intéressant, j'ai perdu le document. Mais 7 ans après, on a fait la première proposition au Parlement à Strasbourg du dimanche comme un jour de repos pour toute l'Union européenne, qui à l'époque était la communauté européenne ou le marché commun. Un peu après, c'était la communauté européenne avant d'être l'Union européenne. Donc, l'arbre commence à croître et les circonstances qui vont caractériser la grande Babylone restaurée après 2520 ans vont commencer à être de plus en plus visibles pour nous autres. Mais nous les voyons déjà. Et cette année-ci, l'année 2022, c'est l'année où cet arbre a déjà 40 ans depuis qu'il a commencé à croître et depuis que les chaînes ont été enlevées et les racines ont pu produire la croissance de l'arbre. Ça fait 40 ans. C'est un chiffre intéressant, mes amis. On voit donc, et puis il y a beaucoup de mouvements en Europe, surtout par exemple ici, je vois l'Alliance européenne pour le dimanche. Et vous savez, ça sera la marque distinctive de la bête, mes amis. Et c'est un mouvement très fort en Europe, n'est pas seulement religieux. Je vais vous lire un petit peu, vous pouvez trouver ça, si vous cherchez l'Alliance pour le dimanche sur l'Internet, vous allez trouver beaucoup de documentation, mais celle-ci, je vous lis un petit peu en quoi ça consiste. L'Alliance européenne pour le dimanche, European Sunday Alliance en anglais, est un réseau d'alliances des syndicats. Vous voyez, il commence à parler par des ouvriers, c'est-à-dire c'est pas d'origine religieuse seulement, ça a été tellement puissant, ça va venir de tous les milieux de la société. Les réseaux d'alliances des syndicats, d'organisations de la société civile et des communautés religieuses, c'est la dernière qu'on mentionne, nationaux, communautés religieuses nationaux, on dirait national peut-être, mais si on inclut tous les autres, c'est peut-être nationaux, engagés dans la sensibilisation à la protection du dimanche comme valeur unique du temps, libre, synchronisé pour nos sociétés européennes. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a, mais il y a beaucoup de matériel là-dessus. Donc on voit comment la scène et comment les acteurs commencent à être prêts pour la dernière scène du drame de l'histoire humaine qui s'approche. Ils vont bientôt se montrer sur la scène du monde. Ils se préparent déjà. Ce qui arrive en Russie, en Ukraine, c'est partie de l'accomplissement de ce qui doit se présenter, les éléments, les protagonistes du temps de la fin, ils vont se manifester et peut-être ainsi comme Babylone a déjà 40 ans, l'invasion de l'Ukraine de la part de la Russie va sans doute accélérer et on entend déjà que le budget de guerre ou de défense nationale chez les Allemands a été grandi énormément. Donc ils se voient forcés de s'unifier. Il voit la faiblesse des États-Unis. Personne n'est allé au secours des Ukrainiens. Ils sont, pour ainsi dire, déçus parce que ce qu'on leur avait promis, ce n'est pas arrivé. Mais l'Europe voit comment M. Poutine, la façon dont il agit, ils ont peur, pour ainsi dire, ça va les pousser à s'unifier rapidement. Donc, tous les événements qu'on voit sur la scène sont en train de nous montrer les protagonistes ou les acteurs de la scène finale de l'histoire humaine, de la troisième guerre mondiale. Il y a M. Poutine qui ménage déjà d'utiliser les bombes nucléaires, son pouvoir nucléaire, si quelqu'un veut l'empêcher de faire ce qu'il est en train de faire. Ce qui est intéressant pour nous autres qui connaissons la prophétie, de voir quelle est l'identité de l'Ukraine. Je vais vous lire un petit peu, mes amis, sur l'Ukraine. Vous pouvez voir dans vos Bibles, dans le chapitre 13 d'Ésaïe. Donc on voit déjà Babylone qui est sur le point de se manifester au bout des 40 ans où les racines ont été libérées. Donc, c'est le moment où arrive ce qui est en train d'arriver entre la Russie et l'Ukraine, qui va accélérer l'union de 10 rois qui vont donner le pouvoir à un seul homme, avec un pouvoir absolu, comme celui de Nebuchadnezzar, ou même de Hitler. Mais à l'époque d'Hitler, ce n'était pas encore le moment pour dominer la terre. Mais cette fois-ci, personne ne peut empêcher que cet empire revienne sur la scène du monde, maintenant après 40 ans de croissance. Nous voyons dans le chapitre 13 d'Ésaïe l'identité des pays qui vont s'opposer à Babylone et qui se trouvent dans la Bible au chapitre 13, verset 17 d'Ésaïe. Chapitre 13, verset 17, mes amis. Ésaïe, chapitre 13, verset 17, je lis de la version Osterwald. « Voici, je vais susciter contre eux, vous voyez le contexte, c'est Babylone. Et Dieu dit, je vais susciter contre eux le Mède. » Gardez ça dans votre esprit. Qui sont les Mèdes? Donc, excusez-moi un moment. Verset 17 du chapitre 13. Voyons, nous sommes en train de regarder comment la prophétie vraiment s'accomplit. Chapitre 13, verset 17 du livre d'Ésaïe. « Voici, je vais susciter contre eux les Mèdes qui n'estiment pas l'argent et qui ne prennent point de plaisir à l'or. De leur arc, ils abattent les jeunes gens. Ils sont sans pitié pour le fruit du sein maternel. Leur œil n'épargne point les enfants. » Vous savez que parmi les Mèdes, je vais vous le dire dans un moment, qui sont les Mèdes? Je vais vous montrer deux écritures encore pour démontrer que Dieu a un certain peuple, et puis il y en a d'autres qui vont s'ajouter, mais un peuple très caractéristique que Dieu désigne dans la prophétie pour aller contre Babylone. Maintenant que Babylone va se manifester, nous allons voir la confrontation que Dieu nous donne ici. Je vous le vois, reportez-vous au livre d'Ésaïe, s'il vous plaît, chers sœurs et frères. Nous allons voir au chapitre 51, au verset 11. Je lis encore de la version Osterwald. Jérémie 51, Jérémie chapitre 51, verset 11, il dit, en parlant de Babylone, si vous lisez le chapitre 51, au début, vous trouvez, ici, chez Osterwald, il dit, prophétie contre Babylone. Donc, contre cet arbre, qui a déjà 40 ans. Donc, il y a une prophétie contre eux, que nous avons déjà vue en Ésaïe, chapitre 13. Ici, chez Jérémie, au verset 11 du chapitre 51, nous voyons, aiguisez les flèches, saisissez les boucliers. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie. L'Éternel a réveillé l'esprit des rois de Médie parce qu'il a résolu de détruire Babylone. Voilà. Car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Donc, deux écritures où Dieu désigne les Mèdes comme ceux dont il se sert pour la destruction de Babylone. C'était arrivé comme ça aussi dans l'année 539 avant Jésus-Christ que nous avons vu. C'était la date et l'année de la chute de Babylone quand ce roi-là a vu l'écriture sur le mur. Dieu a divisé l'empire babylonien entre les Mèdes et les Perses. Cyrus, dont la mère était Mède et le père était persan. Donc, il a été divisé pour cet empire que Cyrus avait unifié en lui-même. Et puis, regardez encore une autre écriture. Au verset Je meurs, mes amis. Il y a encore une autre écriture au verset 27. On va lire chapitre 51 de Jérémie, verset 27. Voici ce qui est écrit. Élevez l'étendard sur la terre. Sonnez la trompette parmi les nations. Préparez les nations contre elles. Appelez contre elles les royaumes d'Ararat, d'Emini et d'Ashkenaz. Établissez contre elles les capitaines. Faites monter les chevaux comme des sauterelles effrayantes. Donc il y avait encore une écriture là sur... Oui, au verset 28, juste après. Préparez contre elles, chapitre 51 de Jérémie, verset 28, préparez contre elles des nations, les rois de Médie, ses gouverneurs, tous ses magistrats et tout le pays de sa domination. La terre s'ébranle et elle attend travail, car les desseins de l'Éternel contre Babylone s'exécutent pour faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Ça, c'est pour le temps de la fin, mes amis. Donc, vous voyez trois écritures déjà. Donc, qui sont les Mèdes? Maintenant, je vais vous lire dans le livre que j'ai ici, dont le titre est « À la recherche, en anglais, de l'origine des nations ».« À la recherche de l'origine des nations ». C'est un livre très bien documenté. Et je vais vous lire ce qui est écrit ici. Hérodote, c'est l'historien, on l'appelle le père de l'histoire. Hérodote a écrit que les Mèdes commençaient à s'installer en Ukraine. Voilà, mes amis. Même à son époque, il a affirmé que c'était un peuple dont la façon de s'habiller était la mode des Mèdes. Et qui sont ceux qui ont colonisé Média au nord des Thraces, au-delà du Danube. C'est Pliny, l'autre historien, qui le dit. Maintenant, on se pose la question, qui vit aujourd'hui au bord du Don? Le roi, la rivière Don. C'est les Mèdes, c'est les Ukrainiens, c'est les Cossacks, les meilleurs soldats. La meilleure cavalerie du monde, dans le sud de la Russie, c'est les Ukrainiens. Finalement, Hérodote les associe avec Mesek. Mesek, c'est Moscou. N'est-ce pas? Ils vont être unifiés. Ce sont les rois de l'Est, que je vous ai dit, les acteurs de la scène finale du drame de l'histoire humaine. Nous les voyons déjà sur la scène. Puis il dit... Donc Mesek et Tubal sont des enfants de Japhet, et les Mèdes aussi, ce sont des cousins, n'est-ce pas? Et ils habitent dans l'Est. Et maintenant, sans doute, l'autre grand empire de l'Est, la Chine, va s'unir à eux, contre Babylone. C'est les rois de l'Est, mes amis. Il dit ici, dit cela, je traduis de l'anglais, excusez-moi, ceci démontre que les Mèdes habitent tout près de Mesek et de Tubal. L'Ukraine est tout près de la Russie. Donc, mes amis, vous dites pourquoi ils ne veulent pas être partis de la Russie. Même s'ils ne veulent pas, ils sont destinés par le dessein des dieux et révélés sur sa parole que eux, ils vont faire partie du bloc de l'Est, des rois de l'Est qui vont détruire Babylone. Les Ukrainiens. Ce qui est intéressant, c'est que quand les Allemands ont envahi l'Ukraine en 1941, il y avait une armée de 800 000 Ukrainiens. Écoutez-moi bien. Il y avait une armée de 800 000 Ukrainiens qui se sont... C'est-à-dire ils se sont rendus, on dit, chez les aux Allemands, ils leur ont dit, les Ukrainiens, c'est comme s'ils voulaient faire partie de l'Ouest, comme ils sont en train, ils veulent faire partie de l'Ouest, mais ils ne sont pas destinés pour ça. C'est pourquoi nous pouvons affirmer, avec certitude, fondée sur la parole de Dieu, et sur l'identité des peuples que Dieu nous donne dans la Bible, qui sont les acteurs finale, du fin, de la fin. Et on voit que ces Ukrainiens ont dit aux Allemands, aux nazis, laissez-nous vous joindre pour combattre les communistes, c'est-à-dire les contre les Russes. Mais Hitler les a méprisés parce qu'il méprisait le peuple slave, n'est-ce pas? Enfin, il ne distinguait pas que les Mèdes étaient un peuple à part, mais il ne le distinguait pas. Vous savez ce qu'ils ont fait? Et c'est documenté, je ne vais pas passer trop de temps là, mais c'est pour démontrer que même si les Ukrainiens veulent faire partie de l'Ouest, ils ne feront pas partie de l'Ouest. Il est écrit, et je vous les ai lus, trois écritures, qu'ils sont destinés à détruire Babylone, qui est l'Ouest. Et ils vont venir de l'Est, exactement comme est arrivé dans l'histoire ancienne, les Babyloniens, les Mèdes et les Perses sont venus de l'Est. Et Dieu a séché la rivière, l'Euphrate, pour qu'ils puissent entrer sous les murailles. Puis une prophétie, mes amis, pour les temps de la fin, quand il y aura 200 millions qui vont venir contre Babylone, il y a un ange qui va sécher la rivière l'Euphrate pour qu'il puisse croiser la rivière à pied et qu'il vienne contre Babylone. L'histoire se répète, mes amis, je vais vous lire ça dans les chapitres 16 de l'Apocalypse, verset, je vais vous dire quel, verset 12, chapitre 16, verset 12 du livre de l'Apocalypse, mes amis. Voyez comment la prophétie commence à se profiler devant nos yeux, mes amis. Chapitre 16, j'ai trop de documents ici, je voulais vous démontrer bien fondé ce qui arrive aujourd'hui sur la scène du monde, pour que vous le sachiez, mes amis. J'avais dit chapitre 16, je voulais lire d'Osterwald de nouveau, et chapitre 16, verset 12 du livre de l'Apocalypse, une prophétie vraiment étonnante de la précision de l'accomplissement final de la prophétie, mes amis. Chapitre 16, verset 12 du livre de l'Apocalypse. Le sixième ange versa sa coupe sur les grands fleuves de l'Euphrate et son eau sécha pour que le chemin des rois de l'Orient fût préparé. Les Mèdes et les Perses. Vous verrez que la nation d'Iran, qui sont les Perses modernes, ils vont aussi s'unir à la Russie et à l'Ukraine. Une fois que cette invasion de l'Ukraine sera résolue, nous savons l'Ukraine sera partie de l'Est. Ils ne feront pas partie de l'Ouest. Et Poutine, il connaît l'histoire, mes amis. C'est intéressant de voir que c'est un bon joueur d'échecs, n'est-ce pas? On dit échecs. Lui, il calcule bien, il connaît l'histoire. Il sait que l'Amérique s'affaiblit. Il peut voir que l'Europe, et maintenant, on a publié, je crois, aujourd'hui sur la presse, ou hier, qu'il a peur que l'Europe va s'unifier contre lui. Il est en train de le provoquer. Mais c'est écrit, ça doit arriver comme ça, mes amis. Et ce qui va arriver, c'est que, donc, Dieu avait séché les eaux de l'Euphrate pour que les Mèdes et les Perses puissent conquérir Babylone. Et maintenant, nous le voyons à la fin des temps, quand l'Ukraine va s'unir à la Russie et à l'Iran, peut-être à la Chine aussi, bien sûr, pour avoir 200 millions de soldats contre l'Europe. Mais ils vont, c'est pas encore que ça va arriver, mais les acteurs sont déjà là. Et nous pouvons savoir ce qui est arrivé dans l'histoire, la cinquième restauration de l'Empire romain sous Napoléon. Qu'est-ce qu'il a fait en 1812? Vous le savez bien, il a envahi la Russie. Et c'était le début de la fin de Napoléon. Il a dû abdiquer 2 ans après. Puis Hitler, la sixième restauration de la bête. Hitler a envahi la Russie 2 fois en 1941. Il n'a pas vraiment atteint son but de prendre Moscou ou Leningrad, qui s'appelait à l'époque. Et en 1943, il a envahi de nouveau, il a envoyé sa 6e armée contre Stalingrad pour s'emparer du pétrole de cette région-là. Et vous savez qu'il a envoyé 300 000 soldats, toute sa 6e armée. Et la même chose qui est arrivée à Napoléon est arrivée à Hitler. Mais c'est eux qui ont attaqué les Russes. C'est pas les Russes qui ont attaqué l'Ouest. C'est l'Ouest qui a attaqué l'Est. Napoléon l'a fait, Hitler l'a fait. Il a perdu toute sa 6e armée. L'hiver est venu, et la même chose qui est arrivée à Napoléon, à peu près, est arrivée à la 6e armée de Hitler. 300 000 soldats, 123 000 ont survécu. Ils ont été tous faits des prisonniers. C'était le mois de janvier de 1944, je crois. C'est quand les Russes ont commencé à avancer vers l'Ouest. Ils sont arrivés à Berlin. Ce qui est intéressant, mes amis, c'est que dans l'année 612 avant Jésus-Christ, les Mèdes, les Ukrainiens, à cette époque-là, c'est eux les principaux instruments pour détruire Ninive, qui était la capitale de l'Empire assyrien. Dans l'année 612 avant Jésus-Christ, ce sont les Mèdes qui ont détruit la ville de Ninive. Et l'Empire assyrien a connu sa fin quelques années après, 3 ans après. C'est les Mèdes qui l'ont fait. C'était les principaux. Et vous savez que le front ukrainien, qui sont les Mèdes d'aujourd'hui, ils ont été le premier arrivé à Berlin, la capitale de l'Empire assyrien de nos jours, que c'est l'Allemagne. Et puis le front russe, numéro 1, est arrivé au nord, et les Ukrainiens sont arrivés au sud. Mais Staline ne leur a pas permis de prendre la ville et de la détruire, parce qu'il ne voulait pas que les Ukrainiens aient la gloire d'avoir planté le drapeau de l'Union soviétique sur le Reichstag de Berlin. Mais c'est ceux deux armées, les Russes, le front numéro 1 au nord, et les Ukrainiens, les Mèdes, le front numéro 1 des Ukrainiens, qui ont pris Berlin et qui l'ont détruite. Mes amis, l'histoire se répète. Elle va se répéter encore. Comme je vous dis, la rivière Euphrate va être séchée de nouveau pour donner le chemin au roi de l'Est. Et puis, qu'est-ce que les Allemands ont fait avec ces 800 000 soldats qui s'étaient offerts pour se battre avec eux, de leur côté, contre les Russes et les communistes. Les Allemands les ont enfermés dans du barbelé. Ils ont laissé mourir toute cette armée de froid et de faim et de la faim dans l'hiver 1941-1942, qui était particulièrement froid. Donc, quelle option avaient les Ukrainiens après ça? De joindre les Russes. Et ils ont rejoint les Russes. Maintenant, encore une fois, nous voyons que l'Ukraine voulait faire part de l'OTAN, l'Atlantique Nord, des traités de l'Atlantique Nord. Mais Poutine, qui connaît l'histoire, il savait bien ce qui allait arriver. Peut-être il allait être attaqué de nouveau. Il ne veut pas que l'Ukraine soit partie de l'Est, de l'Ouest, quand il en a besoin. N'est-ce pas? Des Ukrainiens pour protéger les frontières de la Russie. Donc nous voyons ces prophéties s'accomplir devant nos yeux. Les Ukrainiens, maintenant, ils veulent faire partie de l'Ouest comme ils voulaient le faire quand Hitler a envahi. Ils n'aiment pas les Russes. Mais ce sont des frères. Ce sont les Mèdes. Les Russes sont les Messèques. Et les Toubals sont ceux qui sont au-delà de Zoural, des montagnes qui divisent l'Europe de l'Asie. Donc nous voyons maintenant les acteurs de la fin des temps. Et puis il y a les Russes qui commence à parler dans un langage qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Je vais vous lire des citations des officiers russes concernant la menace d'une représaille de la part de l'Ouest. Ils ont dit des choses qu'ils n'avaient jamais dit auparavant et qui vont arriver, mes amis. Je vais vous lire ça ici. C'est un article que je trouvais il y a quelques jours dans le journal qui s'appelle Wall Street Journal, qui est très sérieux. Je vais traduire de l'anglais pour vous. Il dit, jamais auparavant les officiers russes s'exprimèrent publiquement de cette façon. Vladimir Mojegov, de qui un article en français dans la page website, dans la page Sputnik, l'appel, vous pouvez la chercher peut-être, il y a une page russe, et puis il y a une version française, il l'appelle à ce monsieur, appelé cet officier, Vladimir Mojegov, il l'appelle un analyste de l'Amérique, il se moque en disant que les missiles Zircon, ce sont des missiles très puissants que les Russes maintenant ont développés. Ils sont des alliés qui leur font plus de confiance que l'Amérique. Donc il le fait dans un ton de moquerie. Il dit ces missiles Zircon, ils peuvent casser un destructeur comme on casse une noisette. Ils sont extrêmement puissants. Ils ont des armements extrêmement puissants. Et puis elle dit, c'est un Russe qui a dit ça. Jamais on avait entendu des choses comme ça, cette façon de se vanter. Ils disent qu'ils peuvent détruire un destroyer comme en cassant une noisette. Et qu'ils sont capables de tirer sur un porte-avions comme avec un pistolet avec une boîte de conserve, n'est-ce pas? Puis, il y a la presse qui est pro-Poutine, Svobodnaya, affirme que si l'OTAN est agrandie, la Russie va ensevelir, écoutez-moi ça, la Russie va ensevelir l'Europe et 2/3 des États-Unis dans une demi-heure. Dans une demi-heure. Je vais lire un peu plus loin. Il dit, l'auteur ici, il serait très bien si les somnambules de la France et de l'Amérique, c'est-à-dire ceux qui marchent endormis, ne se rendent pas compte de la situation dans le monde, où le monde se trouve. Ils les appellent des somnambules en France et en Amérique. Et le reste du monde s'éveille. Il serait bien qu'ils s'éveillent et qu'ils écoutent un expert militaire russe, Konstantin Slivkov. Konstantin Slivkov, qui se moque en disant que le potentiel nucléaire de la Russie, en expliquant que à la fin de cette guerre nucléaire hypothétique, il y aura presque pas de survivants. Mes amis, ces choses vont s'accomplir. Je vous donne la preuve. Elle est écrite. Ça va s'accomplir d'une attaque qui va venir de l'Est vers l'Ouest. Mais avant, c'est l'Ouest. C'est l'Empire de la Bête qui va être bientôt restauré, qui fera la même chose que Napoléon a fait et que Hitler a fait. Ils vont attaquer l'Est. C'est eux le premier agresseur, en ce sens-là. Ce que Poutine fait maintenant, c'est comme établir une espèce de défense. Peut-être il a les pressentiments que l'Europe va attaquer de nouveau un de ces jours. La cinquième trompette du livre de l'Apocalypse, c'est une attaque de l'Ouest vers l'Est. Je vais vous le lire pour que vous sachiez maintenant que nous approchons de la fin, mes amis. C'est pourquoi la prophétie nous aide à ne pas relâcher, à être proche de Dieu. Au chapitre 9 du livre de l'Apocalypse, nous lisons, le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombé du ciel sur la terre. Cette étoile n'est autre que Satan lui-même. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, une étoile représente des anges, un ange. La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. On n'a pas le temps d'expliquer tout ce symbolisme maintenant, mais je vous donne l'essentiel pour le moment. De la fumée sortirent des sauterelles. Si vous lisez le livre de Nahum dans les prophètes mineurs, vous voyez que les sauterelles représentent l'Allemagne d'aujourd'hui, la Syrie des temps anciens. Donc, c'est une attaque de la part surtout de l'Allemagne, mais eux, n'est-ce pas, sont accompagnés des restes de l'Europe unifiée sous le pouvoir de la bête, qui maintenant est représentée par cette étoile, ainsi que Hitler était possédé. De la même manière, la bête sera possédée, et puis il sera à la tête des sauterelles qui représentent prophétiquement l'Allemagne. Vous pouvez le prouver, je n'irai pas là, le livre de Nahum, vous le verrez 3 ou 4 fois que Dieu compare les Assyriens aux sauterelles, parce qu'elles sont, d'après les proverbes, ils ont un sens martial. Ils peuvent sortir en formation sans avoir un capitaine. C'est-à-dire, ils ont la discipline martiale comme aucun autre peuple, comme les sauterelles qui sortent en formation et qui font de la destruction. Donc, il dit qu'ils sortirent des sauterelles et puis, verset 4, il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ou à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas les sceaux des dieux sur les fronts. Il leur fit donner non de les tuer. C'est ce qui va arriver. C'est une espèce de vengeance pour la pandémie peut-être, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira d'eux. Qu'est-ce qui va arriver? La bête veut qu'ils se soumettent. Vous savez que maintenant, il y a de plus en plus un rapprochement entre la Russie et la Chine. Ils se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de tout ce que la bête va réussir à faire avec la grande prospérité qui est prédite aussi pour le royaume, le court royaume de la bête. Donc, il va y avoir encore du commerce entre eux, mais soudainement, tel que Napoléon l'a fait, ils vont attaquer avec surprise, tel que Hitler l'a fait, maintenant ils vont attaquer l'Est, la Russie, l'Ukraine, peut-être la Chine, avec cette plaie, pour qu'ils cherchent la mort pendant 5 mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer ce que les généraux viennent d'affirmer. Ils vont répondre avec une attaque nucléaire qui est décrite et qui n'est autre chose que la 6e trompette, juste avant le retour du Christ. Donc ces choses ne vont pas arriver maintenant, tout de suite. Dieu a des anges qui arrêtent les événements jusqu'à ce que le temps arrive. Il faut encore quelques années. Il faut que la bête vienne sur la scène. Il faut qu'il y ait cette prospérité pendant 2 ans et demi. Et puis, la dernière année, ce sera les 7 trompettes. Et la 5e de ces trompettes, juste avant le retour de Christ, va être l'attaque de l'Ouest vers l'Est. Contre la Russie, contre l'Ukraine. Comme Napoléon l'a fait, comme Hitler l'a fait. Ça sera différent cette fois-ci. Ils vont les faire chercher la mort pour qu'ils se soumettent au gouvernement de la bête qui veut un empire mondial, comme Hitler le voulait, un 3e Reich de 1000 ans. C'est ce que la bête veut. C'est ce que le Christ va faire. C'est ce que le diable veut faire, dominer le monde. Mais ils ne pourront pas, ils ne vont pas se soumettre. Ce qu'ils vont faire, après 5 mois de chercher la mort, ils vont répondre avec une attaque nucléaire. Ça sera la 6e trompette. Et si le Christ ne revient pas tout de suite après, c'est la fin de l'humanité, telle que le général l'a dit. Il y a très peu de survivants, ou presque pas de survivants. Ils disent qu'ils peuvent anéantir l'Europe et l'Amérique, 2/3 de l'Amérique, en 1/2 heure. Mes amis, regardons ce que la prophétie dit. Ici dit, pour raccourcir et que vous ayez les choses bien claires. Il dit, ici, au verset 14, au verset 13, chapitre 9, verset 13, la cinquième trompette, c'est l'attaque de l'ouest vers l'est. Encore une fois, je vous le dis, la bête va attaquer les rois de l'est, où se trouvent l'Ukraine, la Russie, la Chine et d'autres nations. Verset 13, le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, en disant au sixième ange qui avait la trompette. Souvenez-vous qu'il y a sept trompettes. Celle-ci est la sixième. C'est presque la fin de cette année-là, de la dernière année, où les sept trompettes vont sonner. Délie les quatre anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Dieu contrôle les événements. Mais si le diable veut faire, jusqu'à un certain point, Dieu l'arrête. Dieu a le pouvoir de contrôler les événements. Et maintenant, il y a des anges qui vont empêcher que la guerre éclate maintenant. Il va éclater d'ici très peu de temps. Très peu, mes amis. Les anges qui sont liés sur les grands fleuves d'Euphrate. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, écoutez-moi ça, les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le général russe a parlé d'une demi-heure. Et ces quatre anges sont préparés pour l'heure, le jour, le mois et l'année. C'est-à-dire, il n'y a pas de symbolisme. C'est exactement une heure. Une heure d'un jour, d'un mois, d'une année. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Exactement. Je crois que ces généraux ou ces officiers, ils ont lu le livre d'Apocalypse. Peut-être ils savent que c'est eux qui vont accomplir cette prophétie. Parce que jamais auparavant, ils s'étaient exprimés de cette façon-là. Verset 16. Les nombres des cavaliers de l'armée étaient des deux myriades des myriades. J'en entendis le nombre. Ainsi je vis les chevaux dans la vision et ceux qui le montaient, ayant des cuirasses de couleur de feu, des hyacinthes et de soufre. Les têtes de chevaux étaient comme les têtes des lions, et de leur bouche ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Les tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortaient de leur bouche. Voilà une attaque nucléaire, exactement ce qu'ils ont déjà en train d'annoncer, des officiers russes, ceux qui sont des experts en Russie. Le temps est proche, mes chers frères et sœurs, comme j'ai dit au début, quel est le but de la prophétie? Il dit, quand il n'y a pas de vision prophétique, le peuple est sans frein. Que cela nous serve, frères et sœurs, cette connaissance de voir les acteurs de la scène finale du drame de l'histoire humaine devant nos yeux. Ils sont déjà là. L'Ukraine va s'unir à la Russie d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle est destinée par la parole de Dieu. C'est les Mèdes qui vont s'unir aux autres pays de l'Est pour détruire Babylone. Et Babylone a déjà 40 ans depuis que les racines ont été libérées. Donc nous approchons de la fin des temps, mes amis. Je ne peux pas dire combien de temps, mais maintenant, l'invasion de l'Ukraine va accélérer l'union de l'Europe sous un seul leader. 10 nations ou 10 royaumes, on ne sait pas exactement, vont donner le pouvoir absolu à la bête. Et nous verrons les acteurs sur scène. Et nous savons qu'est-ce qui va arriver. C'était la sixième trompette, c'est la contre-attaque de l'Est. Ils menacent déjà. Ils vont tuer un tiers de l'humanité en une heure, tel qu'ils l'ont annoncé. Mais juste après, il y a la septième trompette, où le Christ revient. Et nous allons le rejoindre pour restaurer toutes choses. Que devons-nous faire devant ces connaissances, cette vision que Dieu nous donne? Je vais vous les répéter, et vous connaissez sans doute ces écritures que je vais vous lire dans le chapitre 21 du livre de Luc. chapitre 21 du livre de Luc, c'est l'exhortation que Dieu nous donne, et c'est pourquoi il permet que nous comprenions la prophétie, pour que nous ne relaxions pas notre rapport avec Dieu et avec nos frères et sœurs, de vivre en paix, de vivre en harmonie, de savoir que nous sommes destinés à être un et d'éliminer toute inimitié et des rancunes pour avoir la faveur de Dieu et pouvoir nous approcher de lui. Au chapitre 21, verset 34 du livre de Luc, je lis de la version Osterwald. Chapitre 21, verset 34. Prenez donc garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne soient appesantis par la débauche qui nous siège de partout, mes amis. Par l'ivrognerie, ça veut dire aussi les fausses doctrines qui nous font perdre le discernement, et par les inquiétudes de cette vie, l'amour de l'argent, et que ce jour-là ne vous surprenne subitement, car il surprendra comme un filet tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Nous le savons, nous le voyons avec plus de clarté que n'importe qui. Même ceux qui se croient très sages dans la géopolitique ne savent pas ce que je viens de vous décrire, que simplement je l'ai lu des Écritures. C'est pas moi qui ai ces idées. C'est l'Église des dieux, le Saint-Esprit, qui nous instruit à tous. Verset 36. Veillez donc, et priez en tout temps. Et priez en tout temps. Il faut veiller et prier. En train de veiller ici, de voir ce qui se passe. Afin que vous soyez trouvés dignes d'éviter toutes ces choses qui doivent arriver. Et de subsister devant le Fils de l'homme. Voilà, chers sœurs et frères, que la paix de l'Éternel soit avec vous, que nous cherchions refuge sous l'ombre de ses ailes, et que nous nous approchions de lui avec la méditation, l'étude quotidienne de sa parole, le jeûne fréquent, l'étude, la méditation, le jeûne, puis encore un quatrième, la prière, absolument. La prière de chaque jour, matin et soir, que nous restions près de Dieu. Le temps est court. Dieu nous a montré la vision du futur. Mais nous savons qu'au-delà, c'est le royaume de Dieu. Et nous pouvons lever nos têtes en sachant que notre libération est proche. Et que le royaume des dieux est auprès de nous. À bientôt, chers sœurs et frères.